Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous, bienvenue. Rien que cette semaine, plusieurs exemples. La condamnation en France de Carlos, figure du terrorisme à la perpétuité, pour un attentat commis en 1974. En Roumanie, une peine de 20 ans de prison pour meurtre et crime contre l'humanité. Contre l'ancien chef d'une colonie pénitentiaire de la période communiste, les faits remontent à la fin des années 50. Deux procès, deux verdicts qui posent la question de l'équilibre à trouver entre d'un côté le besoin de justice des victimes et de l'autre la pertinence d'une peine si tardive. Parfois, le temps est au contraire un obstacle. Cela a été le cas dans l'affaire dite Baupin en France, du nom de ce député écologiste accusé par plusieurs femmes de harcèlement sexuel. Après ouverture d'une enquête, les accusations ont été corroborées, mais les faits étaient prescrits. Résultat, enquête classée, au regret des plaignantes et de Denis Baupin qui l'a assuré, il aurait aimé pouvoir se défendre. Un thème d'actualité en France, le 28 février dernier, une loi est entrée en vigueur, elle double les délais de prescription pour les délits et les crimes. Mais juger des dizaines d'années plus tard a-t-il du sens? Eh bien, c'est notre sujet de ce soir. Bienvenue.
RFI.
Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Julienne Pinsard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. En face de vous, en studio, à ma gauche, Alain Touré, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député du Calvados, député du Parti radical de gauche. Vous êtes ancien avocat, ancien magistrat aussi. Et vous êtes à l'initiative de la loi dont j'ai parlé il y a quelques secondes dans l'introduction, initiative que vous avez prise avec un député qui n'est pas de votre bord, Georges Fenech. Alors, avant de lancer le débat, je voudrais qu'on écoute un représentant des victimes, car elles sont évidemment un maillon de la chaîne judiciaire. Stéphane Jiquel est secrétaire général de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Je lui ai demandé, c'était il y a quelques heures cet après-midi, si juger Carlos 43 ans après l'attentat du drugstore avait un sens.
C'est un vrai questionnement, parce que d'un côté, il est rassurant que dans une démocratie, le temps qui passe ne soit pas un refuge pour les terroristes. Mais en même temps, il ne faut pas faire abstraction des difficultés. Difficultés d'abord pour les victimes qui ont l'impression de retourner 43 ans en arrière, et puis difficultés procédurales parce que certains experts sont décédés, les témoins ne se souviennent plus, et donc on a une fragilité juridique et technique du dossier judiciaire qui est incontestable.
Du point de vue des victimes, raviver un traumatisme des dizaines d'années plus tard, est-ce que ce n'est pas dangereux? Est-ce que ce n'est pas contre-productif?
C'est en tout cas une vraie question qu'on doit se poser quand on est association de victimes. Ces victimes avaient un accompagnement particulier, mais c'est vrai que c'est un peu le choix du diable. Si on n'avait pas fait ce procès, l'autre possibilité, c'était l'oubli et l'abandon, ce qui est aussi insupportable pour les victimes.
Voilà donc pour le témoignage de Stéphane Jiquel. Alors je voudrais qu'on commence peut-être par ces difficultés techniques et juridiques qui sont posées par les délais, par le temps. Alain Touré, est-ce que ça a du sens selon vous de juger plus de 40 ans après les faits, quand certains témoins ne sont plus là, ne se souviennent plus très bien, certaines victimes ne sont plus là? Est-ce que ça a encore du sens?
Oui, tout à fait, je le pense. Je pense que chacun doit répondre de ses actes, surtout si ce sont des criminels. Un criminel, eh bien, les victimes, elles ont le droit qu'ils soient jugés, et elles ne pourront faire leur deuil véritable que lorsque ce criminel sera jugé et condamné.
Mais est-ce que vous entendez quand même ces critiques? Alors je vais donner quelques exemples peut-être un peu plus spécifiques à la barre là de ce procès, le procès de Carlos, son ex-maîtresse qui avait affirmé aux enquêteurs, alors il y a évidemment des dizaines d'années, que le Vénézuélien lui avait confié que son groupe était à l'origine de l'attentat contre le drugstore, ne se souvient finalement plus de rien. Il y a aussi l'ex-compagnon d'armes de Carlos à qui il aurait fait les mêmes confidences, qui lui s'est pris les pieds dans le tapis en situant une conversation à une période où en fait ils ne parlaient pas la même langue. Est-ce que ce sont quand même des arguments que vous entendez?
Je voudrais savoir si ces témoins sont des témoins véritables et s'il n'y a pas eu des pressions qui ont été commises sur eux. C'est la première chose qu'on doit se poser dans les affaires de terrorisme. Vous croyez qu'il n'y a aucun moyen de faire des pressions sur des témoins?
Mais si ce ne sont pas des pressions, et si effectivement c'est humain, si effectivement une victime, un témoin a perdu la perception de certaines choses, oui. 43 ans plus tard, ça peut être compréhensible.
Il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est que la prescription. La prescription, c'est la fin de l'action publique, l'extinction de l'action publique, c'est-à-dire que l'État ne va plus poursuivre devant les tribunaux répressifs la personne en question. La prescription, elle a toujours existé, et la loi que j'ai fait voter à l'unanimité maintient le principe de prescription. Elle maintient le principe de prescription, pourquoi? Rappelons-nous pourquoi c'était comme ça. C'est ce qu'on appelait globalement le droit à l'oubli. la notion de droit à l'oubli qui fait qu'effectivement, au bout d'un certain nombre d'années, les preuves ont dépéri. Au bout d'un certain nombre d'années, on considère que le criminel ou le délinquant a souffert lui-même du fait des propres délits qu'il avait commis. C'est un peu curieux, mais ça a toujours été comme ça. Et puis, la déperdition des preuves, avec l'ADN, tout a changé. Alors l'ADN n'est pas la solution à tout, et le syndicat de la magistrature intervient toujours en me disant « faites très attention en ce qui concerne l'ADN ». C'est vrai, mais l'ADN permet quand même de résoudre tout un certain nombre de grandes affaires criminelles. Alors,
sur les humains, sur les témoins humains.
Oui, mais il faut quand même rappeler les choses, c'est le problème de l'impunité ou pas. Quand vous avez accompli un crime, c'est-à-dire que vous avez tué quelqu'un, supposons ça, un terroriste, c'est quelque chose d'effrayant.
Plusieurs victimes dans le cadre de cet attentat.
Carlo, c'est un terroriste. Il bénéficie d'une prescription spéciale en matière de terrorisme, une prescription spéciale de 30 ans, à la différence des autres prescriptions. Normalement, c'est 10 ans pour une prescription pour un crime, mais un crime terroriste, c'est 30 ans. Est-ce que vous croyez normal qu'au bout de 10 ans et un jour, on ne puisse pas poursuivre M. Carlos ? Ça posait vraiment des problèmes. Les prescriptions,
elles ont été faites par Bonaparte et par Napoléon.
C'est Napoléon, en 1808, qui a fait les prescriptions. À l'époque, la moyenne de vie était de 35 ans. Est-ce que l'on peut avoir les mêmes durées de prescription quand on a 35 ans d'espérance de vie que quand on en a 85?
Alors, on va poser la question et faire réagir Julienne Pinsard à tout ce qui vient d'être dit. Pour vous, ce procès, Carlos, comme d'autres, il y a d'autres exemples en France et à l'étranger, on en parlait dans l'introduction, est-ce que ça pose des problèmes ou est-ce que pour vous, justice a finalement été rendue enfin?
Alors déjà, je vais juste replacer le cadre, parce que le procès Carlos, en l'occurrence, c'est pas un problème de prescription, puisque les faits avaient été poursuivis dès le lendemain de l'attentat. Enfin, il y a eu une ouverture d'enquête dès le lendemain de l'attentat. En l'occurrence, là, c'est clairement, d'une part, le temps de l'enquête, d'autre part, les droits des parties qui ont pu s'exercer pendant cette enquête, et qui, certainement, les parties ont dû faire des demandes d'actes, etc. Le temps des expertises, qui ont dû prendre un certain temps, des recours qui ont eu lieu, et puis des délais d'audiencement. Enfin, tout ça repose la question des moyens que la justice se donne, dont elle dispose pour pouvoir juger dans un délai raisonnable, qui est quand même une des prescriptions de la Cour européenne des droits de l'homme. Et cette prescription, elle a un sens dans le cadre du procès équitable, donc qui signifie que chacun doit avoir le droit de se défendre correctement. En l'occurrence, là, on est 43 ans après les faits, je crois. Effectivement, les problèmes qui sont évoqués dans l'interview que vous avez diffusée en début d'émission, ils sont réels. Les témoignages, et dans plein d'autres procès, j'ai moi-même assisté à des procès d'assises 30 ans après les faits. Au mieux, les gens se souviennent vaguement, avec des risques de contradiction avec ce qu'ils avaient déclaré précédemment, qui risquent pour le coup d'affaiblir l'accusation, parce que sur un jury d'assises, l'impression que ça donne quand on se contredit, c'est que on ne dit pas la vérité. Et au pire, des gens qui ne se souviennent pas. Et donc, le débat qui est censé se refaire à l'audience ne se fait pas. Et pour les victimes, le risque... alors là, en l'occurrence, pour le procès
alors,
Carlos...
On va parler des victimes, hein. C'est évidemment dans une seconde partie, mais je voulais d'abord aborder ces arguments plutôt techniques, très très juridiques, sur cette question quand même qui vient d'être abordée par Julienne Pinsard, qui nous dit finalement ces contradictions possibles, voire ces oublis, ça peut affaiblir l'accusation. Ça, c'est un argument qui est intéressant, ne pensez-vous pas ?
Ben justement, c'est très bien. Si ça affaiblit l'accusation, eh bien le doute bénéficie à l'accusé, et à partir de ce moment-là, il sera acquitté. Je vois pas en quoi on peut faire un rapprochement à ce niveau-là. Mais pour le cas, il faut bien voir que selon ce que vous dites, on aurait la preuve totale de la culpabilité. Si la prescription était acquise, il faudrait renoncer à poursuivre, ce qui est le cas actuellement. Mais ça doit être l'exception. L'exception d'irrecevabilité due à la prescription ne doit pas être un moyen d'impunité. Quand même, la première des choses dans cette société, c'est d'avoir à répondre de ses gestes et que les criminels soient punis, poursuivis et condamnés.
C'est aussi ce qu'a dit effectivement
Stéphane Guittet.
C'est
quand même bien la première des choses. Moi, j'ai quand même une pensée pour les victimes en la matière, mais surtout pour l'ordre public. Je suis un député qui représente l'ordre public, parce que les magistrats représentent l'ordre public, mais les députés aussi. Et à partir de ce moment-là, que les assassins répondent de leurs actes.
Alors, il y a une autre dimension qui est intéressante en posant cette question, c'est celle aussi de la peine. Quel rôle a, quel sens a une peine 40 ans avant les faits, Julienne Pinsard?
En fait, effectivement, la question du temps, est-ce que ça a du sens de juger plusieurs années après les faits, ça rejoint la question de est-ce que ça, quel sens peut avoir une peine des dizaines d'années après les faits, parce que
est-ce qu'elle est punitive, par exemple?
La fonction principale de la peine, enfin l'une des fonctions principales de la peine, c'est de rétablir l'ordre social qui a été troublé par l'infraction. Alors, d'une part, plusieurs dizaines d'années après les faits, l'ordre social est quand même très souvent rétabli. On va s'extraire d'infractions très spécifiques qui sont le terrorisme ou les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité et revenir à des infractions plus quotidiennes. Bien souvent, dans des infractions contre les biens, la victime a été indemnisée par son assurance. Dans des infractions violentes, par exemple des violences conjugales ou des crimes passionnels, les victimes soit se sont séparées, soit ont mis en place un certain nombre de mécanismes.
Donc il y a plus ce besoin-là finalement que vient combler.
Ça, c'est la première chose.
Il y a un principe d'opportunité qui existe également et qui est dans les attributions du parquet. À la différence d'autres pays que sont les pays anglo-saxons, nous avons un système de prescription, nous avons un système d'opportunité. C'est-à-dire qu'une affaire peut parfaitement être constituée, un délit peut être caractérisé, et le parquet n'est pas obligé de poursuivre. À la différence des autres pays et des autres pays européens.
Et alors, dans quel cas, par exemple, il ne le fait pas?
Là, vous raisonnez dans le cadre de poursuites qui seraient engagées tardivement. Mais je pense que la question, elle est plus large que ça. Enfin, en tout cas, la question du débat au départ, elle est de juger plusieurs années après les faits. Et parfois, ce que j'expliquais au départ, c'est pas l'action publique qui a été engagée tardivement, c'est le procès qui a duré. Enfin, c'est la procédure qui a duré. Et pour finir avec le sens que peut avoir une peine plusieurs années après les faits. Il faut aussi prendre en compte le fait que donc l'ordre social a potentiellement été rétabli, mais que aussi les gens, enfin la personne qui a commis l'infraction a évolué, est insérée et est passée totalement à autre chose et que venir.
Alors, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas de Carlos qui purge deux autres peines à perpétuité, mais je crois que les auditeurs ont compris ce que vous voulez dire. Alain Touré, c'est ce que vous nous avez un peu dit au début d'émission. Pour vous, la principale justification à ces procès des dizaines d'années plus tard, en tout cas longtemps après les faits, c'est vraiment pour les victimes, c'est fondamental.
Il y a deux sortes de choses. L'ordre public. L'ordre public, il est plus ou moins troublé par des infractions plus ou moins fortes. Un vol de vélo n'a jamais troublé l'ordre public, on en est bien d'accord. Bon, là, lorsqu'on en parlait de Carlos, on est quand même en période actuellement d'urgence due aux périodes de terrorisme. Vous comprenez, vis-à-vis de nos auditeurs, il faut quand même leur dire cela. La société doit être défendue et doit être protégée. Bon, ça, c'est quand même quelque chose qui me semble particulièrement important. Maintenant, la victime. Ben, la victime, elle doit aussi... nous sommes un droit pénal qui a évolué. Le droit des victimes était peu reconnu. Ces temps-ci, avec les associations qui défendent les victimes, on écoute beaucoup les victimes.
Un ministère aussi.
On écoute beaucoup les victimes. Elles doivent être entendues, mais tout ne doit pas tourner autour des victimes. Ne nous y trompons pas.
Donc victimes et ordre public, vous insistez sur
les deux.
C'est
d'abord l'ordre public, ensuite les victimes, mais l'ordre public ne doit pas oublier les victimes.
Alors je voudrais qu'on en vienne à l'affaire dite Baupin. Les plaintes contre ce député écologiste ont été finalement déboutées par le tribunal de grande instance de Paris, puisque les faits qui lui étaient imputés sont prescrits, a dit le TGI. L'affaire Baupin avait poussé certains parlementaires à adopter une proposition de loi, justement, à votre initiative, qui fait passer les délais donc de 3 à 6 ans pour la prescription générale pour les délits, de 10 à 20 pour les crimes. Vous me corrigez ?
Oui, ça n'a rien à voir avec l'affaire Baupin, la loi que j'ai proposée. Elle remonte il y a plus de 3 ans. On a beaucoup travaillé avec Georges Fenech, on a déposé un rapport que j'ai ici de près de 500 pages. Mais l'affaire Baupin,
c'est
greffé après.
Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que ça a accéléré le processus.
Non, rien. L'affaire Baupin n'a absolument rien à voir avec la loi. C'est une loi qui remonte à 1808. 1808, vous vous rendez compte de ce que cela veut dire? Bon, et sur lesquels il y a eu depuis 1935, avec la modification de la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation sur l'abus de confiance, des tas d'essais pour modifier la loi, pour l'améliorer. Le procureur général, M. Marin, a dit « Nous sommes en période de plein chaos judiciaire. Dites-vous que les magistrats jugeaient toujours contre la loi. Toute la Chambre criminelle, toute sa jurisprudence en matière économique est contre la loi. Ça ne s'était jamais vu. » En plus de cela, les législateurs, au lieu de s'en tenir aux prescriptions de 10 ans, mettaient de 20 ans ou 30 ans. C'était le chaos, c'était le magma.
Donc on a réparé finalement une loi qui n'était pas à la hauteur.
On a essayé de mettre de la lisibilité, car la lisibilité, c'est la protection des droits des gens.
Alors, Julien Pinsard, sur cette loi donc qui double les délais de prescription, est-ce que elle vous semble opportune ou pas? Non.
Alors, non. Là, clairement, la position du syndicat de la magistrature a toujours été d'être contre, en tout cas, le doublement des délais de prescription. Sur le reste, que vient d'évoquer Alain Touré, le syndicat ne s'est pas opposé, hein, il fallait clarifier ou remettre dans l'ordre. Bon. Sur le doublement des délais de prescription, deux choses assez simples. La première, c'est que on a des exemples d'enquêtes qui sont très anciennes. Je pense à l'affaire Grégory, par exemple, et qui se poursuivent encore et qui ne sont pas prescrites. Pourquoi ? Parce que dans le droit, il y a des possibilités d'interrompre la prescription. Et notamment sur ces grosses affaires-là.
Donc ce que vous voulez dire, parce que c'est un peu technique, c'est qu'en gros, on a des outils pour permettre finalement aux procédures d'être longues et de ne pas faire courir ce délai.
Voilà, en fait. Oui. Le délai repart à chaque fois qu'on fait un nouvel acte d'enquête.
Mais plus concrètement, par exemple, une femme a été violée il y a, donc maintenant, on va dire 7 ans. Le délai, c'est 6 ans. Aujourd'hui, elle ne peut plus...
C'est un crime.
Donc c'est 20 ans, il y a 21 ans, est-ce que ça ne pose quand même pas une question importante ?
Qui est la question de...
est-ce qu'il ne faut pas allonger le délai de prescription, c'est un débat, vers l'imprescriptibilité de certains crimes pour assurer justement à l'ordre public d'être assuré ?
Alors, encore une fois, l'ordre public, 20 ans après, il est rétabli objectivement. En revanche, le trouble qu'a subi
la victime.
Mais oui, mais l'ordre public, ce n'est pas la victime. Alors là, du coup, je vais peut-être faire une explication de texte. L'ordre public, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt de la société. Ce n'est pas la somme d'intérêts particuliers. Or, la victime, c'est un intérêt particulier. Donc, pour l'ordre public, à mon avis, quand on n'a pas l'intérêt de poursuivre, c'est aussi de montrer l'exemple et de dire. Les crimes dans notre société ne sont pas impunis. Quand on n'a pas poursuivi au bout de 20 ans, qu'on poursuive au bout de 21, 25 ou 30, concrètement, tout le monde a oublié, sauf la victime, on est bien d'accord. Pour la victime, à mon avis, 20 ans après, et pas qu'à mon avis d'ailleurs, il y a beaucoup d'exemples qui le prouvent, les preuves sont très difficiles à obtenir, les témoignages n'existent plus, et donc on prend le risque d'une part d'aller au classement
d'attendre
sans suite.
D'attendre beaucoup peut-être d'un procès qui peut être éventuellement perdu à l'entouré, c'est ça ?
Nous sommes d'accord là-dessus. Autant je crois que sur d'autres sujets on peut avoir des différences, mais nous sommes tout à fait d'accord. Je ne pense pas que l'imprescriptibilité soit un moyen juste vis-à-vis des victimes. Car le taux d'acquittement de personnes qui sont poursuivies au bout de dizaines d'années est beaucoup plus fort. Et de ce fait-là, il y a une incompréhension totale, absolue, complète des victimes qui ne comprennent pas pourquoi, alors qu'elles ont tant attendu, elles ont si peu de résultats. Donc, en matière en particulier, rappelons quand même que nous avons des prescriptions de 30 années en matière de stupéfiants, en matière de crimes de guerre et en matière de... le troisième m'échappe, c'est stupéfiants, crimes de guerre et terrorisme.
Ce que vous voulez dire finalement, c'est que l'arsenal législatif tel que vous avez permis de le modifier est suffisant selon vous aujourd'hui ?
Actuellement, nous maintenons les grands principes, on maintient le principe de la prescription. Dans la plupart des pays européens, il n'y a pas de prescription, faut le savoir. Nous avons maintenu ce principe de prescription. Mais nous ne voulons pas que par la prescription, l'impunité soit quelque chose que cherchent à obtenir, naturellement, avec leurs avocats, les criminels bien, bien chevronnés.
On va en rester là. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous deux, Alain Touré, député du Calvados, député du Parti radical de gauche, ancien avocat, Julien Pinsard du syndicat de la magistrature. Merci également à Stéphane Jiquel, que vous avez entendu en début d'émission, à Florence Ponce et à Quentin Bresson. Merci également au service de la documentation à lundi. RFI.